En fait, ma mère me racontait que mon arrière-grand-père souffrait en fait de problèmes d'anxiété, d'angoisse. Il ne pouvait pas travailler, il était toujours couché, dépressif. Ma mère en a souffert longtemps. Je me rappelle de vacances quand j'étais jeune où je voyais ma mère respirer dans un sac en papier brun, là. Et puis, moi, j'ai eu un certain problème aussi qui se sont manifestés dans mon adolescence. J'avais des tocs et la peur de la mort, c'est devenu aussi des troubles hypochondriaques. J'avais toujours peur de mourir. Quelque chose que je vivais tout seul, puis je pense que c'est généralement quelque chose que les gens vivent tout seul. C'est vraiment la maladie du siècle, puis c'est encore très tabou. Puis je suis vraiment content parce que Pasteur Claude, en fin de semaine, ce dimanche, va amener un message là-dessus. Puis je suis convaincu que ça peut impacter beaucoup de monde.
Merci à David pour ce beau témoignage. Et David, qui est notre directeur artistique. Alors, je saisis l'opportunité de remercier toute l'équipe technique, médias, communication, web et toute l'équipe de direction artistique aussi. Si vous appréciez tout le travail qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie, c'est hallucinant ce qu'ils ont créé en ligne. Envoyez-leur un pouce, envoyez-leur un applaudissement, envoyez-nous quelque chose, un petit message en ce moment si vous êtes sur notre plateforme live et dites quelques mots d'appréciation si vous voulez bien le faire. Ça fait du bien et ils le méritent tellement. Ils ont fait un travail remarquable. Et ce matin, on continue avec la guérison. Le message, c'est sur la guérison de mon âme dans le champ de bataille de nos pensées pendant la COVID-19. C'est encore une joie pour moi de prendre un instant pour serrer dans mes bras toute la famille Nouvelle Vie. Que ce soit à Longueuil, bien sûr, et à La Prairie, la famille Nueva Vida, la famille Nouvelle Vie, sur plusieurs sites, Drummondville également. On pense à vous, on prie pour vous, on est préoccupé par vous, on vous porte en prière. La famille me manque, le fait d'être avec vous, vous êtes ma famille. La famille me manque tellement. La semaine passée, j'ai fait une mention de Romains chapitre 1 où l'apôtre Paul, ces mots-là prennent tout un sens pour moi depuis le début de la COVID. L'apôtre Paul, Romains 1, commence ce chapitre en disant « Je ne fais sans cesse mention de vous dans mes prières continuellement. » Afin que dans sa volonté, je puisse avoir le bonheur d'aller vers vous à nouveau, d'être rassemblé. Paul était confiné, était isolé, ne pouvait pas être avec les croyants de Rome. Et il dit, j'ai tellement hâte d'être avec vous. Et ça m'a fait sourire, mais en même temps, je le comprends tellement. Il commence en disant ça et il termine, c'est assez particulier, il termine Romains, le 16e chapitre, en commençant à nommer, il nomme 35 noms. 35 prénoms, comme s'il n'était pas capable de s'arrêter, de saluer lui et elle et elle et elle. Et moi, je pourrais le faire, croyez-moi, ce matin, je pourrais le faire pendant des heures avec des centaines d'entre vous qui êtes tellement précieux pour moi. On est là, on veut tout vous donner, on essaie de tout faire pour vous encourager, vous fortifier, vous nourrir pendant cette pandémie, vous nourrir spirituellement, vous aider dans le combat de vos pensées. Et je sais qu'il y a tellement de gens qui se joignent à nous, peut-être que vous ne connaissez même pas l'existence deux outils cet été qui peuvent vraiment vous aider dans le combat de vos pensées. Deux livres sur les cinq livres que j'ai écrits. Si vous allez maintenant sur Amazon, juste Claude Hood sur Amazon, et vous allez trouver les cinq livres que j'ai écrits. Il y en a deux en particulier dans le combat des pensées. Dans le mois de mai seulement, plusieurs centaines de personnes sont allées sur Amazon et ont commandé ces livres. Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne, pour vous aider avec des enseignements très, très pratiques. Un par semaine pour toute une année, mais pendant l'été, ça se lit tellement bien avec des pensées et prières. Et aussi, vous ne pouvez pas aider votre famille si vous ne comprenez pas les pensées que Dieu a envers vous. Découvrir et développer votre potentiel à partir de l'épître de Paul aux Philippiens. Les deux livres sont là. Vous allez sur Amazon, Claude Hood sur Amazon, et vous allez avoir tout ça. Et je pense que ça peut être une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, la guérison de mon âme sur le champ de bataille de nos pensée durant la COVID-19 dans le classique psaume 23, le psalmiste témoigne comment Dieu a restauré ses pensées et même son âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer Il me fait reposer. Il m'apprend à trouver le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Il m'a appris à diriger mes pensées vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de la COVID-19, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal en face de mes adversaires. Puis l'adversaire est souvent dans nos pensées. C'est là que le combat prend place. C'est là qu'est le champ de bataille. C'est là qui est la tour de contrôle. Tu oins ma tête d'huile. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront à tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le désir de Dieu de rencontrer chaque besoin dans notre expérience humaine, que nous soyons dans sa grâce, dans sa bonté, dans notre santé personnelle, physique, santé relationnelle, santé émotionnelle, santé spirituelle, santé mentale. Il me fait reposer. Il me dirige vers les eaux paisibles. David a eu une vie trépidante, une vie pleine d'aventures, une vie avec des hauts et des bas, une vie avec de grands exploits. C'était tout un accomplisseur, tout un leader, mais aussi avec des tragédies, des catastrophes, des deuils, des déchirements. Et si vous en doutez, vous avez juste à lire les psaumes qui sont la liste, le playlist des chants qu'il a composés et où il met toutes ses émotions sur la table. David a dit quelque chose qu'on peut s'attribuer. Il a dit, « Le Seigneur a dû m'apprendre. Il m'a appris à diriger mes pensées vers les eaux paisibles. Il m'a appris à trouver du repos. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement. Et il m'a donné du repos, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de la COVID-19. Et je reçois beaucoup, beaucoup de courriels qu'alors que les mois s'accumulent, alors que les semaines s'accumulent, se prolongent, la pression est ressentie par plusieurs. J'ai à cœur, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriels. Je vais en lire un avec sa permission, mais je veux simplement lire un extrait d'un courriel d'un jeune homme qui s'appelle Étienne, qui, je pense, représente beaucoup de gens. Il m'a écrit, « Cher Pasteur Hood, je veux vous remercier pour vos cafés matinaux en ligne et pour vos messages sur le champ de bataille des pensées. Je suis un jeune célibataire de 24 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à Nouvelle-Vie il y a 3 ans et ça a commencé vraiment une nouvelle vie pour moi après une jeunesse pas mal troublée avec beaucoup de consommation et tout ce qui vient avec. Je suis complètement clean depuis 2 ans et demi. Il a été baptisé ici à Nouvelle-Vie et tout allait vraiment bien dans ma vie. J'avais un super job, je remboursais toutes mes dettes, je faisais des économies et je faisais des heures supplémentaires à chaque semaine et j'avais des possibilités d'avancement. Je me bâtissais une belle vie. La COVID, là, avec la COVID, je traverse une période sombre. Ma compagnie a fermé. Ce que je reçois en ce moment n'est pas assez. Il me reste seulement juste 2 mois de prestations. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Il dit, « Mon implication à Nouvelle-Vie était tellement importante pour moi. C'est là que je voyais des gens, mes nouveaux amis. Il y a de l'amour et de la gentillesse et de la bonne humeur dans notre Église que je ne retrouve à nulle part ailleurs. Je suis en confinement, je n'ai pas de famille et les vieilles pensées noires et toute la gang d'avant reviennent fortes. Souvent, mes pensées vont vers le négatif. J'essaie de les chasser, mais comme dit la chanson, une chance qu'on s'a. C'est vos cafés du matin et vos messages qui me boostent à tous les jours. J'ai déjà été suicidaire avant. Je ne veux pas retourner là. Est-ce que vous avez un message qui pourrait m'aider? Je ne sais pas d'où viennent toutes ces pensées sombres-là qui reviennent, mais je veux en guérir et même aider les autres. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que Dieu est fort. Je crois en lui. Je me rappelle tout ce qu'il a fait pour moi déjà dans ma vie. J'ai de l'espoir. Priez pour moi, Étienne. » Très touché par ce courriel d'Étienne. Et Étienne, je prie que le message d'aujourd'hui et tous les Étiennes qui peuvent s'identifier va faire du bien à ton âme. Mais je veux aussi te dire, comme à tous ceux qui regardent, que tu peux tout simplement, même là, tu vas sur Live Nouvelle Vie, il y a quelqu'un qui est là, tu peux parler avec quelqu'un qui est là. On peut te connecter maintenant avec un groupe Zoom où des gens, à toutes les semaines, se rencontrent, parlent, échangent, te connecter avec quelqu'un qui peut s'identifier avec ce que tu vis, quelqu'un de ton âge, quelqu'un. Alors, ne le porte pas seul. Mais je pense que le courriel d'Étienne représente beaucoup. Le psalmiste a dit, « Il restaure mon âme, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Devant mes ennemis qui m'assaillent, il vient restaurer mon âme. Il dit, tu oins ma tête d'huile. » C'est une expression qui ne veut pas dire grand-chose pour nous. L'huile, bien sûr, représente l'Esprit de Dieu, la paix de Dieu dans les Écritures. Mais c'est une image qui était très vivide pour eux. C'est le psaume du berger et des brebis. Et lorsque j'étais en Israël, ça faisait partie d'un des tours que j'ai fait, on visitait un berger avec ses brebis, parce que tu te promènes encore en Israël puis tu vois les bergers et les brebis partout, et qui nous a littéralement expliqué ce psaume et expliqué aussi en nous le montrant manuellement comment des moustiques entraient et infestaient la tête et même les oreilles de la brebis, et ça devenait comme un tourment continuel. Et le berger prenait l'huile, et alors qu'il appliquait l'huile et qu'il nettoyait la tête et les oreilles, c'était comme, tu vois, littéralement la brebis se calmer. Et David a dit, c'est lui qui vient, c'est seulement Dieu qui est capable de venir calmer les tourments de mon âme par l'huile de son esprit. Parce que la Bible enseigne, lorsqu'on lit, il restaure mon âme. Qu'est-ce que votre âme? La Bible enseigne que vous avez un esprit, et vous avez une âme, et vous avez un corps, un esprit, une âme, et avec un corps comme temple. Comme dans le temple dans l'Ancien Testament, il y avait trois parties. Il y avait la cour extérieure, la cour intérieure et le lieu très saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Dieu, comme il habitait dans son temple, habite maintenant en nous, pas dans des temples faits par les pierres les mains des hommes, il habite en nous. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre corps est une enveloppe temporaire. Votre esprit va vivre éternellement, avec Dieu ou sans Dieu, uni à Dieu ou séparé de lui, selon simplement est-ce que vous avez reçu, accepté le Seigneur dans Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur dans cette vie. Il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Vous avez un corps qui est une enveloppe temporaire. Votre esprit va vivre pour toujours et votre âme, c'est vos pensées, votre volonté et vos émotions. Mon âme est la partie de moi que ce que je pense, ce que je choisis et ce que je ressens. Et on a vu ensemble à cette décision, dans les trois messages, c'est le troisième et dernier aujourd'hui, mais c'est trois, l'enseignement complet, les sept crises, parce que le mot crise veut dire décision pendant la crise du COVID, sept décisions pour restaurer notre âme, restaurer nos pensées, nos émotions pendant la COVID. On a vu ensemble à travers l'épître de Jacques, cinq chapitres, 105 versets à des gens qui étaient confinés, des gens qui étaient sous pression, des gens qui avaient besoin de savoir comment aller chercher la paix dans leurs pensées. Nous avons vu ensemble les sept décisions de la COVID-19. Demander et démontrer de la grâce. Débuter et terminer vos journées en nourrissant votre âme. Découvrir à quel point Dieu peut vous aider. Également déterminer un déroulement régulier à vos journées, délimiter ce à quoi vous allez vous exposer. Et aujourd'hui, dans le dernier message, les deux points vont ensemble, les deux décisions, discerner ce qui fait dériver mes pensées et déployer la puissance de Dieu pour diriger mes pensées vers la guérison. Aujourd'hui, dynamique et décision 6 et 7, des pratiques essentielles, des dynamiques et pratiques essentielles pour guérir lorsque notre âme, nos pensées, nos émotions, notre volonté est abîmée, est attaquée, blessée, besoin d'être restaurée. Lorsque nous sommes épuisés mentalement, usés mentalement, émotionnellement, lorsque nous avons été traumatisés, lorsque nous avons été trahis, lorsque nous avons été blessés, une pensée peut être endommagée et avoir besoin, nos pensées, nos émotions, notre volonté, besoin de restauration. Comme un homme pense, ainsi deviendra-t-il. Et Jacques enseigne, et Jacques, celui qui nous enseigne ces clés, savait à quel point changer nos pensées vont changer ce que nous allons devenir. Il avait lui-même changé totalement ses pensées sur son demi-frère qui était Jésus. Et si vous y pensez un instant, Jacques, à travers les évangiles, au début, on le voit à travers les évangiles, ne croyait pas que Jésus, avec qui il avait grandi, était le Fils de Dieu, l'opposait. Il y a presque une suggestion que lui et sa famille, lui, ses frères pensaient qu'il avait perdu l'esprit, ont essayé de le reprendre à un moment donné. Il n'est pas là au pied de la croix. Ce n'est qu'après la résurrection que Jacques a changé de pensée. La repentance, le changement de pensée. Il a complètement changé de pensée. Il a vu Jésus, le Christ ressuscité, et le changement de ses pensées a changé sa vie entièrement, comme la nôtre, comme des millions d'entre nous. Jacques parle à des chrétiens au passé chargé et au présent et à l'avenir qui étaient inquiétants. Ils sont en confinement, ils sont en danger, ils sont dans des épreuves, et il va, et Jacques connaissait bien cette dynamique que nous connaissons trop bien, que parfois il y a une dérive incontrôlable de nos pensées. Il y a tout ça, il y a ce tourment. Il a décrit, c'est dans la Bible, c'est l'expérience humaine que nous vivons. Pendant cette pandémie, il y a plusieurs qui combattent ou s'abandonnent à des pensées. Des pensées en ce moment, ça peut être de profonde inquiétude, de solitude, de peur de la mort, de peur de mourir seul. Je reçois des courriels qui sont tellement poignants, de gens qui suivent les messages, mais sont seuls, sont isolés, des pensées de culpabilité, de regret, de tristesse, des sentiments d'abandon, d'anxiété pour l'avenir, de ressentiment, de colère, de perte de liberté, de frustration, d'amertume, un combat sur le champ de bataille de nos pensées. Il y a une pandémie qui est extérieure à nous, mais il y a une pandémie qui est intérieure, et Jacques l'a décrit au chapitre 4 et au verset 1. D'où viennent les luttes, les tourments, les soucis, les conflits parmi vous? N'est-ce pas de vos pensées, de vos passions? Bon, on va décrire le mot dans un instant. De vos pensées, de vos passions qui combattent à l'intérieur de vous? Vous avez des pensées de convoitise, de frustration parce que vous ne possédez pas, des pensées envieuses, des pensées meurtrières font rage à l'intérieur de vous. Ce combat, il y a un combat à l'extérieur, mais un combat à l'intérieur de convoitise pendant cette COVID. Ce que je voudrais qu'il soit, qu'il n'est plus. Ce que je voudrais qu'il arrive, qu'il n'arrive pas. Ce que je voudrais rétablir tout de suite, qu'il n'est pas rétabli. Vous êtes frustré parce que vous ne possédez pas. Vous avez perdu. Je ne possède plus ma liberté. Je ne possède plus mes choix. Je ne possède plus le plan clair pour mon futur, pour mon mariage, pour ma vie, pour mon couple, pour mes études, pour mon ministère. D'où viennent ces luttes, ces tourments, de vos passions? Le mot « édom », qui parle des sens, qui parle d'une poursuite de nos sens, d'un plaisir, le soi, une poursuite de soi s'emballise. Ce qui plaît seulement à nos sens s'emballise. C'est de là que tout vient. Et littéralement même des pensées de convoitise, d'inquiétude, de tourment, et il dira même des pensées d'envie, des pensées de meurtre. La Bible nous dit que Satan était un meurtrier depuis le début, que dès le commencement dans l'histoire de l'humanité, lorsque tu regardes bibliquement à ce portrait, il y a lorsque Caïn va avoir cette pensée meurtrière pour son frère Abel, Satan est là. Et encore aujourd'hui, lorsque vous voyez au moment où on enregistre ce message, toutes les États-Unis sont à feu et à sang avec la mort aux mains de policiers qui a une arrestation avec le genou sur le cou, sur la gorge de George Floyd. Et là, il y a toutes sortes, et toute l'Amérique, il y avait une manchette ce matin dans un des plus grands quotidiens, je l'ai vu en ligne, un des plus grands quotidiens d'Amérique qui disait « L'Amérique est-elle en train de perdre son âme? » Restons mon âme. L'Amérique est en train de perdre son âme. Et à chaque fois que vous allez voir à travers l'histoire les pensées meurtrières, les pensées d'homicide, de fratricide, de génocide, ou même des pensées de suicide, la pensée de « ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je peux prendre ta vie » ou « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je peux prendre ma propre vie », le combat intérieur. L'apôtre Paul a dit de cette façon, il y a un combat extérieur, un combat intérieur dans nos pensées, dans nos âmes, et il y a des attaques, mais il y a aussi des armes. Nous avons des armes. 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, dans nos vies humaines, terrestres, normales, temporelles, nous ne combattons pas seulement. Il y a un combat qui est au-delà de la dimension humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par l'aide de Dieu, par la possibilité, la grâce et l'Esprit de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il parle littéralement que par l'Esprit de Dieu, par les armes que Dieu nous donne, on en vient à discerner les faux raisonnements. Les faux raisonnements qui essayent de s'élever au-dessus des plans de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la fidélité de Dieu, des pensées de Christ pour nous et qui peuvent littéralement en venir à créer des forteresses en nous. Des forteresses, c'est un peu, pour avoir une image moderne, c'est un peu comme lorsque Daesh finit par établir à quelque part dans une nation un califat. Va établir dans un endroit à force graduellement d'établir sa domination. Il y a un endroit où ils dominent, un endroit où ils ont le contrôle. Et l'apôtre Paul décrit qu'il y a un combat spirituel où nous avons des forteresses dans nos pensées. Il y a une pensée qui s'est incrustée, qui est là et qui est prise, qui nous tient. Il y a une forteresse à l'intérieur de nous. Je dois discerner et renverser ce qui est faux raisonnement. Ces forteresses, ça peut être une forteresse d'idéation suicidaire, une forteresse de dépression, une forteresse de colère, d'amertume. C'est la forteresse de « je ne serai pas capable ». Je ne le mérite pas. Je ne peux pas faire confiance. J'ai été trop blessé. Forteresse, je ne peux pas me faire confiance. Je ne peux pas tourner ma vie à Dieu. Je vais être un échec. Ça va bien, ça ne durera pas. Ça va mal en ce moment, ça va empirer. Ça ne finira pas. C'est la forteresse des personnes qui ont en tête cette notion continuelle. Des personnes comme moi ne peuvent pas. Personne ne comprend ce que moi je vis. Des personnes comme moi ne peuvent pas. C'est une équation importante. C'est lorsque je connais que je peux identifier les forteresses que je vais combattre et calmer, contrôler et en venir ultimement à conquérir dans le combat de mes pensées. En 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul dit « Afin de ne laisser aucun avantage, aucun accès à l'ennemi, nous ne sommes pas ignorants de ses pièges. Nous avons besoin de ses pièges pour nos âmes. Nous avons besoin, nous devons discerner afin de déployer. » On doit discerner les pièges afin de déployer les possibilités de Dieu pour trouver la paix dans nos pensées. C'est la sixième et septième décision de discerner ce qui fait dériver mes pensées. Et je veux vous donner deux, ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a deux sphères, il y a deux virus, si je peux le prendre en ces termes très actuels. Il y a deux virus qui sont parfois asymptomatiques, qui atteignent des gens de tous les âges, les atteignent de manière différente, où tu peux en être atteint et en être même contagieux dans tes pensées, dans tes actions, des virus spirituels que nous avons besoin de discerner si nous voulons être capables de déployer la puissance de Dieu pour nous guérir. Et les deux virus qu'on va regarder ensemble apparaissent à l'écran. Discerner ce qui fait dériver mes pensées. Nos cœurs et déchirements non restaurés font dévier nos pensées. Nos culpabilités deviennent des forteresses qu'on doit aller chercher la guérison. Nos culpabilités, nos deuils et déceptions non relâchés. Deux virus dans nos pensées, dans la pandémie de nos pensées. Si on veut voir nos âmes être restaurées, il faut les discerner. Nos cœurs et déchirements non restaurés. Nos culpabilités, nos deuils et déceptions qui sont non relâchés. J'ai vu ces virus empoisonnés, avortés, gardés captifs des gens depuis tellement longtemps. Depuis toutes mes années de pastorat. On va lire un texte qui est tellement descriptif ensemble dans Job chapitre 5, les versets 1 à 3, où il décrit à quel point nos cœurs et déchirements, lorsqu'ils sont non reconnus, non restaurés, quelle œuvre ils peuvent faire en nous, dans notre âme. N'oubliez pas que notre âme, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens et ce que je choisis. C'est mes pensées, mes émotions et ma volonté. Nos cœurs et déchirements non restaurés. Job 5, 1 à 3. « C'est insensé pour toi que de te laisser périr par la colère et l'amertume. J'ai vu la folie de celui qui se laisse emporter par ses ressentiments. J'ai vu l'emportement de ses pensées prendre racine en lui et je l'ai vu tout perdre. » Je l'ai vu dans la vie de tellement, tellement de gens et je vais vous donner aujourd'hui, je ne veux pas être facétieux, je ne veux pas faire le rigolo, mais je vais vous donner aujourd'hui une prophétie. Je ne suis pas prophète, mais je vous donne une prophétie qui est absolument certaine de s'accomplir. Dans la prochaine année, avant la fin de l'année 2020 et dans les dernières années, quelle que soit votre expérience de vie, dans la vie, vous allez être blessé. Et voici la deuxième nouvelle, vous allez blesser d'autres. Sans le vouloir, vous allez être blessé, vous allez vivre des déchirements de cœur, vous allez vivre des déceptions, des ressentiments, vous allez vivre des choses émotionnelles. C'est une réalité et j'ai grande compassion, le Seigneur a grande compassion, mais la réalité est celle-ci. Ce n'est pas la réalité de nos blessures qui est la plus déterminante pour nos âmes, c'est notre réaction, notre réponse et notre recherche. C'est comment tu vas réagir. Tu vas être blessé et tu vas blesser d'autres. Ce qui va, les gens qui ont la paix dans leurs âmes ne sont pas des gens qui n'ont pas été blessés. Ce sont des gens qui ont reconnu et qui ont appris comment composer, comment répondre à la blessure, à la discerner, à l'identifier. Alors, il y a une question miroir. La parole de Dieu est un miroir. Il y a une question miroir ce matin. Vous êtes-vous reconnu dans Job 5? Ça, c'est une personne qui a été blessée, mais insensée parce qu'elle se laisse périr par la colère et l'amertume. J'ai vu la folie de celui qui se laisse emporter par ses ressentiments. Le courant de ses ressentiments maintenant est en train d'emporter sa vie entière. Je l'ai vu l'emportement de ses pensées prendre racine en lui et je l'ai vu tout perdre. Perdre un mariage, perdre une amitié, perdre des relations, perdre des liens, perdre une destinée. Écoutez bien, le malheur prolongé, la souffrance de l'âme vient de quelque part. Job continue en disant, « Le malheur et la souffrance ne sont pas de la poussière, ne germent pas du sol. » C'est le cœur de l'homme qui le fait souffrir. C'est le cœur de l'homme, c'est de l'intérieur. Comme l'étincelle vole pour embraser. C'est les pensées que j'ai laissées fomenter en moi qui deviennent des étincelles qui vont embraser à chaque aspect de ma vie. Pour moi, et voici maintenant la décision. Voici maintenant comment déployer. Voici maintenant comment je peux et tu peux déployer la grâce de Dieu dans ta vie. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à lui que j'exposerai ma cause. Il a fait des choses grandes. Et là, remarquez, je vais lire les deux prochains versets, il est en train de déclarer la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans la création, ce n'est pas seulement pour des guérisons physiques et miraculeuses, des exploits, et c'est pour une œuvre dans le cœur. Certaines des œuvres les plus magnifiques, extraordinaires et miraculeuses de Dieu sont celles qu'il désire que tu le laisses faire dans ton âme. Il a décrit tout ce qui arrive à un cœur un cœur déchiré, qui n'est pas restauré, mais maintenant, il dit, pour moi, et tu peux le dire aujourd'hui, pour moi, j'aurai recours à Dieu, c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il a fait des choses grandes et insondables en moi, dans mon cœur, des merveilles sans nom. On regarde la suite. Aussi, Dieu protège celui qui est affaibli. En ce moment, tu peux être affaibli dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Je suis vulnérable. Mais Dieu, je viens à toi et à toi seul. Tu peux protéger mes pensées, protéger de la souffrance que j'ai vécue, de la blessure que j'ai eue, de la trahison que j'ai eue. Je suis affaibli en ce moment. Je suis menacé. Mais tu es celui qui me protège, qui me sauve et contre ce qui était tellement puissant contre moi. Nous avons tous vécu que l'amertume peut être tellement puissante contre nous. La déception, la trahison, la blessure, l'abandon, la blessure, l'offense peut être tellement puissante contre moi, mais Dieu protège celui qui est faible et menacé le sauve de ce qui était tellement puissant contre lui. C'est comme ça. C'est ainsi que l'on déploie la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ainsi que l'espérance restaure le malheureux. C'est comme ça que l'espérance restaure le malheureux lorsque nos cœurs et déchirements non restaurés sont devant lui. Et la deuxième dimension, c'est lorsque nos culpabilités, nos deuils et nos déceptions non relâchées. Il y a deux forces, il y a deux virus. Nos cœurs et déchirements non restaurés et nos culpabilités et déceptions non relâchées. Non relâché. Le ressentiment et la honte, la culpabilité. Le ressentiment et la culpabilité sont parmi les pires tourmenteurs de nos âmes. L'amertume, c'est ce que d'autres m'ont fait ou m'ont pas fait. Mon père aurait dû, mes parents auraient dû, mon épouse aurait dû. Voici ce qui m'a été fait ou pas fait qui a causé de l'amertume. La culpabilité, c'est ce que moi j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Sa culpabilité, c'est qu'est-ce que moi j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. C'est le regret, c'est la culpabilité, c'est le deuil de ce que j'aurais pu être, de ce que j'aurais dû faire. Deux virus dans la pandémie des pensées qui infectent notre âme, nos émotions, notre volonté, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous choisissons. La culpabilité, les déceptions, la culpabilité de parents lorsqu'ils voient ce que la vie de leurs enfants, j'aurais dû être plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas? Comment ça se fait que je n'ai pas? Je compare avec d'autres. La culpabilité en ce moment, pendant cette COVID, d'enfants devenus adultes envers leurs parents. J'aurais dû mieux m'occuper d'eux. J'aurais dû être plus auprès d'eux. La culpabilité, c'est un avec l'orgueil humain, c'est de tous les âges, hein? Il y a beaucoup de jeunes qui regardent, je reçois beaucoup de courriels de jeunes, d'ados même, et de jeunes adultes qui écoutent, qui regardent Nouvelle Vie chez vous. Le cycle de la culpabilité, c'est un cycle carrousel infernal. J'ai été blessé, je blesse d'autres. Je fais du mal, je dis des choses à mes parents, je fais du mal à des gens, je fais des choses que je regrette. Je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné, je suis blessé et je blesse d'autres. Je ne permets pas à Dieu de déployer sa grâce dans ma vie, mais je n'ai pas l'orgueil de, je n'ai pas l'humilité de le reconnaître. Je suis trop orgueilleux pour l'admettre. Ça crée des ravins entre moi et les gens, ça monte des murs entre moi et les gens. Le cœur déchiré, le deuil est culpabilisé, tourmente. L'âme va tourmenter l'âme. Regardez le psaume 38, les versets 1 à 12, et portions de 1 à 12. David parle d'à quel point, décrit d'une manière vivide, à quel point la culpabilité lui fait du mal. Il n'y a plus de vigueur en moi à cause de mes péchés, de mes fautes, de mes erreurs, car mes culpabilités sont comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées par l'effet de mes pensées. Culpabilité, pensée. Je suis courbé, abattu, au dernier point. Tout ça à cause de la honte. On continue. Toute la journée, je marche avec tristesse, avec un mal brûlant qui me dévore à l'intérieur. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon âme m'arrache des gémissements. Et même mes proches et mes amis s'éloignent de ma plaie et se tiennent à l'écart de moi. C'est ce que la combinaison de cœur déchiré et de culpabilité, deuil et déception non relâchée va produire en nous. Elle va nous affaiblir, va nous vider. Il y a un tourment qui est là. Il y a même des gens qui se distancent de nous parce que c'est juste ça qui sort de nous, c'est juste ça que nous exprimons. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes culpabilités? Il y a plein de choses qui s'écrivent sur toute la dimension des vies qui sont basées sur la honte, ce que David vient de décrire, la pensée basée sur la honte, les sentiments qui font croire que vous êtes en quelque sorte mauvais. Conservez-vous des souvenirs, j'ai lu ce texte, conservez-vous des souvenirs qui renforcent une image négative de vous-même, créant une pensée basée sur la honte. La honte est une émotion puissante qui est souvent enracinée dans des problèmes de longue date. C'est aussi la source de nombreux problèmes auxquels des gens sont confrontés. Shame-based people, des gens dont la vie est basée sur la honte. Cependant, vous pouvez franchir cette barrière de la honte et même l'éliminer de votre vie. Qu'est-ce que la pensée basée sur la honte? La pensée basée sur la honte dérive de sentiments qui vous font croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, fondamentalement. Le dictionnaire Merriam-Webster le définit la honte comme une émotion douloureuse causée par la conscience et la culpabilité de carence. Le sentiment devient intériorisé pour créer une croyance qui vous amène à vous définir comme étant mauvais, comme étant pas digne de, comme j'ai été endommagé de façon permanente. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une façon positive de vous voir, mais cela arrive souvent et affecte plusieurs d'entre nous. Comment se développe la pensée basée sur la honte? Vous pouvez développer une perspective de vous-même basée sur la honte avec une expérience de l'enfance, recevoir des paroles de parents. Il y a un problème avec toi, c'est toi, des paroles qui ont été prononcées, qui ont été répétées sur plusieurs années, qui ont eu un effet dramatique et dévastateur et insoupçonné sur toi. Ça peut être vivre des événements traumatisants ou plusieurs mauvais traitements, comme la négligence, l'abandon, l'abus, l'injustice, la dépendance. Ça peut être ressentir du regret pour les actions que vous avez commises dans votre passé. Des erreurs graves que vous avez faites, des crimes, un échec, un divorce, des opportunités manquées qui vous hantent maintenant. La honte ne vient pas d'une situation unique, j'ai eu honte à un moment, ou passagère, ou embarrassante, ou une maladresse. Au lieu de cela, les origines sont beaucoup plus profondes et contribuent à la façon dont vous vous définissez en tant que personne. Quels sont les dangers de la pensée basée sur la honte? Avoir une image négative est un problème associé à la pensée basée sur la honte. D'autres problèmes incluent ne plus se sentir capable de réaliser ses objectifs ou ses rêves. Je ne veux même plus essayer par peur de l'échec. Ça serait trop dur à supporter. Une incapacité à créer des relations profondes, significatives et aimantes. J'ai tellement peur d'être déçu, de ne pas être digne, de ne pas mériter d'être aimé. Utiliser les substances pour faire face au sentiment de honte et ainsi développer d'autres dépendances ne fait que décupler des enjeux et des problématiques. Juste les multiplier, se sentir déconnecté et seul. C'est ça que David exprimait. C'est ce que David a exprimé dans son psaume. Dans son psaume. Regardez bien maintenant la suite. Si vous regardez la suite du psaume 38 dans le témoignage de David, il dit « Seigneur, tous mes désirs sont maintenant devant toi et lorsque mon cœur est agité et que je suis sans force et que la lumière de mes yeux n'est plus la même, tout ça à cause de la culpabilité, la honte, Éternel, c'est en toi que je vais placer mon espérance. Tu vas me répondre, Dieu de mon salut. » Si on continue, « Même lorsque je suis dans la crainte, à cause de mon péché. J'ai fait tellement d'erreurs, j'ai saboté, bousillé tellement de choses. J'ai peur pour mon avenir. Si je reconnais mes fautes devant toi, tu ne m'abandonneras pas, Éternel. Tu viendras en hâte à mon secours. » Ça, c'est notre Dieu. « Seigneur, mon pardon et mon salut. » David connaissait la puissance de ce que la Bible appelle la confession. Le mot confession, c'est homologeo. Homo veut dire pareil et logéo veut dire parler. C'est littéralement je veux parler pareil à Dieu. Confesser, c'est je me mets en accord avec Dieu. Je veux me mettre en accord avec Dieu. Je reconnais ce qui ne fonctionnera pas. Il y a plein de choses qui ne fonctionneront pas, c'est certain, ne guériront pas vos âmes. Ce qui ne te libérera jamais des offenses, de la culpabilité ou de la colère, l'amertume, les offenses, la culpabilité. Nier ou enfouir ne te guérira jamais. L'amertume nous aveugle et ce que tu réprimes s'imprime. Nier nos culpabilités ne nous guérira jamais. Les minimiser ou les rationaliser, c'est moins pire que, c'est pas aussi, tout le monde le fait. Qui se compare se console. C'est juste un peu de consommation. Je pourrais arrêter tous les jours, mais je pourrais arrêter n'importe quand. C'est rendu légal de toute façon. C'est pas si grave que de nier, de minimiser, de rationaliser, de baisser, faire des compromis. Abaisser le standard de mes valeurs qui vont abaisser le standard de ma valeur ne guérira pas. La dimension que ce que la Bible dit, et je le sais, que quand je fais ça, si je fais ça, si je pense ça et je fais ça, ces actions-là me diminuent mes valeurs et me diminuent dans ma valeur devant lui, alors je vais simplement baisser la barre pour essayer d'étouffer la culpabilité. Non, mon blâmer les autres, accuser les autres, projeter sur les autres ne changera jamais. Écoutez, David, voici, David connaissait la puissance de la confession. Il a dit, je vais me mettre en accord avec Dieu. Confesser, j'arrive à la fin du message. Confesser, c'est mettre mon accord, c'est parler pareil. Le mot confesser veut dire parler pareil. C'est littéralement, je veux me mettre en accord. J'aligne mes pensées, mon cœur et mes actions. J'aligne mes pensées, ce que je pense, mon âme, mes pensées, mes émotions, ce que je ressens, et j'aligne, ça va résulter à mes actions, ma volonté sur ce que Dieu a dit de moi. Tu me dis que, et je me mets d'accord avec toi, tu me dis que dans le psaume qu'on vient de lire, si je reconnais mes fautes, mes culpabilités, mes hontes, mes regrets devant toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, je veux que tu le saches. Il ne t'abandonnera jamais. Il veut guérir ces choses de ton cœur. Il faut que tu lui remettes. Il ne m'abandonnera jamais si je place mes désirs devant toi. N'abandonne pas tes désirs. N'abandonne pas tes désirs et tes destinées. N'abandonne pas des rêves que Dieu avait mis sur ton cœur, que tu penses par une fausse culpabilité qui sont maintenant devenus impossibles. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes désirs. Je mets tous mes désirs devant toi. Si je mets tous mes désirs devant toi, Seigneur, toi-même, tu me répondras, ô Dieu de mon salut. Si c'est sur toi et toi seul que je fixe mes pensées et mon espoir, alors que je reconnais mes déchirements et reconnais mes déceptions, ce qu'on m'a fait et ce que j'ai fait à d'autres, tu viendras en hâte à mon secours, Seigneur, mon Dieu, mon salut, mon pardon. Est-ce que vous comprenez que lorsque David parle de Dieu, son salut et Dieu, son pardon, il est en train d'annoncer Jésus-Christ, que toutes mes fautes, toutes tes fautes, toutes mes culpabilités, toutes mes hontes, tous mes regrets, toutes mes erreurs, tout ce que j'ai bousillé, le passé, le présent et l'avenir, a été mis sur lui. Il porte et veut me libérer, m'a pardonné et veut me libérer dès maintenant. Et c'est là-dedans, c'est avec ça que je veux marcher à chaque jour. C'est ça que je veux dire à mon âme. En terminant, je vais te donner un conseil qui peut changer le cours de ta vie dans ces décisions pour gagner, pour voir ton âme être restaurée sur le champ de bataille de tes pensées. Le conseil est celui-ci. N'écoute pas ton âme, parle à ton âme. N'écoute pas ton âme, parle à ton âme. Tout le monde sait ce que notre âme nous parle. L'humanité hors de Dieu, qui nous parle de peur, qui nous parle d'amertume, qui nous parle de découragement, qui nous parle d'abandon, qui nous parle de... Non, n'écoute pas ton âme, parle à ton âme. Psaume 42, le psalmiste dit, « Mon âme est desséchée, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Mon âme souffre d'une perte. Ça vous dit une des choses qui me manquait. Il était nostalgique pour, vous lirez le psaume 42. Je me rappelle avec effusion de cœur lorsque nous allions à la maison de Dieu ensemble avec la foule. Maintenant, je suis tout seul. Maintenant, je suis isolé. Maintenant, le passé n'est plus là. Je ne pourrai plus jamais. Je n'ai plus de... Mon âme souffre d'une perte. Elle est abattue. Elle est triste et oppressée. Il y avait des gens qui narguaient Dieu autour de lui. Plusieurs fois dans le psaume, il me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Il y a des gens qui nous disent ça, il y a des personnes qui nous accusent de ça, mais il y a aussi l'ennemi lui-même qui dit « Où est Dieu? Où est Dieu? » Ses pensées qui venaient. Voici ce que son âme lui disait. « Mon âme souffre d'une perte. Elle est abattue, triste et oppressée, tourmentée. » Et vous lirez le psaume 42, ça revient plusieurs fois, mais le psalmiste va parler à son âme. Chapitre 42, le verset 5. « Mon âme, pourquoi t'abattu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai. » Encore, il est mon salut, il est mon Dieu. Le psaume suivant qui vient, le psaume 103, encore de David, il le fait à travers tous les psaumes. David parle à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Est-ce que tu es prêt à arrêter d'écouter ton âme et commencer à parler à ton âme? Corrie ten Boom a dit, « Mon âme inquiète n'ajoute aucune paix à mes demain. » Elle ne fait que dévorer mes forces aujourd'hui. Mon âme inquiète n'ajoute aucune paix à mes demain, mais ne fait que dévorer mes forces aujourd'hui. Mon âme. L'attaque est constante. Quand vous lisez le psaume 42, les attaques reviennent, la même attaque revient. Mais fois après fois, c'est un combat de tous les jours, mais c'est une dynamique, une pratique, une décision de tous les jours. Je ne vais pas écouter mon âme. Je vais parler à mon âme. Mon âme espère en Dieu. Mon âme, je l'ai loué déjà. Je n'oublie aucun de ses bienfaits et je le louerai encore. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme médite. Mon âme fixe-toi. Mon âme, mes pensées, mes émotions, mes actions, mes décisions sont fixées sur son pardon, sur sa patience, sur sa puissance, sur ses percées dans ma vie, sur sa patience envers moi, sur sa paix, sur ses plans et ses projets de paix pour moi. Un dernier passage que je vais vous offrir. Je veux vous donner un témoignage, un dernier passage que Dieu m'a donné il y a plusieurs années et qui est devenu un passage de vie pour moi. J'en ai plusieurs, mais c'est un passage fondateur pour moi. À chaque fois que mon âme vient me tourmenter, à chaque fois que je suis face à des situations sans issue, mon âme commence à paniquer parce que j'ai un mur d'un côté, j'ai un mur de l'autre, j'ai un ennemi qui me tourmente derrière et j'ai ce qui semble être infranchissable devant. Le psaume 77, le témoignage est celui-ci. C'est le témoignage de Moïse alors qu'ils sont arrivés avec un appel de Dieu à sortir de la captivité, de l'esclavage pour aller dans la terre promise, mais ils sont avec une montagne d'un côté, un mur, on ne peut pas aller là. Une montagne de l'autre, j'ai pas d'issue. Pas d'issue. Et lorsqu'ils se retournent, ils voient les hordes meurtrières qui se fondent sur eux, puis il y a une mer rouge devant eux. Mais Seigneur, psaume 77, 20, tu frayas un chemin par la mer, un sentier au milieu des grandes eaux, et tes traces ne furent pas reconnues. Tu les conduisis par un chemin que personne ne connaissait, dont personne ne connaissait l'existence. Je veux te dire en terminant ce message, alors que tu te crois qu'il n'y a plus d'issue, Dieu a des chemins tracés pour toi que personne ne peut imaginer, que personne n'a vu avant. Et vous savez, lorsque je pense à ce que nous traversons en ce moment avec la COVID, on n'a jamais traversé quelque chose comme ça auparavant. Puis pourtant, dans les premiers 3 mois, avec toutes les douleurs qu'on peut voir autour de nous, à laquelle on est sensible et conscient. En tant qu'Église, nous vivons du miraculeux à chaque semaine. C'est extraordinaire l'œuvre que Dieu fait. Et lorsque je regarde à toutes les réalisations en tant qu'Église que nous avons eues, que ce soit l'Église Nouvelle Vie, que ce soit à Longueuil, à La Prairie, Nueva Vida, Drummondville, que ce soit la mise sur pied de soutien de l'organisme Action Nouvelle Vie, que ce soit la mise sur pied de l'Association chrétienne pour la francophonie avec des églises partout au Québec et dans le monde, que ce soit la mise sur pied avec tout un groupe de partenaires de l'Institut de théologie pour la francophonie avec maintenant plus de 1000 gradués partout à travers le monde, que ce soit chaque histoire miraculeuse dans ma propre vie, chaque moment où mes pensées étaient tellement tourmentées où je devais parler à mon âme. Mon âme n'oublie pas. Mon âme espère en Dieu. Je l'ai loué, je l'ai loué encore. Or, Dieu, à chaque fois, trace un chemin que je n'avais jamais vu avant, un chemin que personne ne connaissait, un chemin qu'au début, on ne reconnaît pas. En ce moment, tu ne reconnais pas, tu ne peux pas voir comment Dieu va le faire, mais Dieu va le faire pour toi. Il va te conduire. Il y a un chemin pour toi, il y a un chemin pour tes pensées, il y a un chemin pour ton couple, il y a un chemin pour ton mariage, il y a un chemin pour tes enfants, tes petits-enfants. Il a un chemin pour ton présent, il a un chemin pour ton avenir. Il faut tourner vers lui nos âmes, mes pensées, mes émotions, ma volonté, comment je pense, ce que je ressens, comment j'agis vers lui. Et avec ce cœur qui dit, Seigneur, tu vas me conduire dans un chemin que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas, dont je ne connaissais pas l'existence. Savez-vous comment s'appelle ce lieu où Dieu a ouvert la mer devant eux? Le lieu s'appelle Baal Zephon, les trésors cachés de Dieu. Et Dieu a des trésors cachés pour toi aujourd'hui. Tu vas dire toi aussi, il m'a appris, il m'a dirigé vers des eaux paisibles. Il a restauré mon âme. Quand ma tête bourdonnait, quand ma tête était infectée avec les parasites dans mes pensées, il a oué ma tête d'huile et il m'a apaisé. Il a restauré mon âme. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On arrive à la fin du message. On prie ensemble, si vous voulez bien, sur le champ de bataille des pensées. Seigneur, j'ai besoin que tu restaures mon âme. J'ai besoin que tu restaures mon âme. Seigneur, je veux que tu me conduises, que tu me diriges, que tu m'apprennes à trouver les eaux paisibles. Seigneur, je discerne ce qui fait dériver mes pensées. Seigneur, mon cœur et les blessures de mon cœur et les tourments, les choses passées. Seigneur Dieu, je te demande au nom de Jésus de venir avec l'huile de ton esprit. Je viens te les remettre. Je viens tourner mon cœur vers toi. Et Seigneur, aussi la culpabilité, ce que je n'ai pas été. Seigneur, donne-moi la force. Je prends la décision de pardonner à ces offenses, mais aussi de me pardonner. De me pardonner, Seigneur, mes coupures de cœur, je te les offre, je te les remets. Les compromis que j'ai pu faire, mes colères, mes craintes, mes culpabilités. Seigneur, même mes chutes, je les ramène à tes pieds. Tu seras là, Dieu de mon salut, Dieu de mon pardon. Tu ne m'abandonneras pas, même lorsque mon cœur est dans la crainte à cause de mes péchés. Mon Dieu m'amènera dans ses sentiers de paix. Seigneur, viens à mon aide à chaque jour. Aide-moi à ne pas écouter mon âme, mais plutôt parler à mon âme. Mon âme, espère en Dieu, car tu le loueras et tu le loueras encore. Et je déclare par la foi que tu traces un chemin que je ne vois pas, que je ne connaissais pas, que personne ne connaît, mais que je vais vivre Baal Zephon. Je vais vivre cette saison où des trésors cachés. Seigneur, tu es mon berger et tu restaures mon âme dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit amen. Et amen, si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, de prier avec quelqu'un, toute l'équipe pastorale est là. Il y a des pasteurs, des leaders de tous les âges, hommes et femmes qui sont là pour vous. Allez-y maintenant. Allez sur Nouvelle Vie Live. Si vous n'êtes pas déjà, allez-y. Vous êtes déjà là. Prenez un instant pour aller sceller ce moment avec quelqu'un. Et pour chacun d'entre nous, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne, est-ce qu'on peut déclarer ensemble, est-ce qu'on peut chanter, louer et adorer ensemble? Car tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de mon cœur. Tu es Dieu au-dessus de mon âme, mes pensées, mes émotions, ma volonté, ce que je pense, ce que je ressens, les choix que je vais faire, je te les remets, car tu es Dieu, tu es le Dieu de gloire. Bonne semaine à tous.